Pierre Antilogus, donc, qui est chercheur à l'UPMC et qui est le responsable du LSST, la collaboration France-LSST, va nous parler de cet instrument.
Super, merci. Bon, mais écoutez, dans la lancée, donc on va continuer. Là, je vais vous donner, donc je vais vous parler du projet LSST, donc qui est en construction, donc qui est un télescope optique, donc en particulier par rapport à SK. Donc là, on est dans un domaine, le domaine du visible, enfin du moins visible pour cet instrument. Avant de vous présenter plus en détail le projet, je vais faire juste une toute petite introduction sur les objectifs et sur les solutions qui ont été adoptées, qui sont à la base donc de LSST. En fait, l'objectif dans ces programmes observationnels en cosmologie, aujourd'hui, c'est de voir le plus grand volume d'univers possible et le mieux possible. Et quand on est dans le domaine optique, la façon dont on quantifie, enfin disons qu'on essaie de qualifier ça, c'est avec une quantité qui s'appelle donc l'étendue, qui en fait reflète directement le volume d'univers auquel on va être sensible. En fait, ça, c'est une combinaison de deux facteurs, à savoir à quelle distance on va être capable de voir, au combien on peut voir loin, et ça, c'est directement fourni par la taille du miroir. Plus votre miroir va être grand, évidemment, plus vous allez être capable d'être sensible à des sources faibles, et donc, a priori, lointaines. En même temps, si vous voulez voir un très grand volume, il faut voir aussi une grande surface, et donc c'est là où le champ de vue intervient, et en particulier, bon, ben, vous avez l'impression que la Lune est grande dans le ciel, elle est vraiment toute petite, en pratique, le ciel est vraiment gigantesque, et ça c'est donc l'autre quantité, si avec une seule prise de vue vous pouvez voir une grande surface, et bien évidemment vous allez voir un grand volume à la fin. Et donc c'est la combinaison de ces deux à travers l'étendue, donc le produit en fait de la surface du miroir avec le champ de vue, qui vous donne en gros une mesure du volume d'univers auquel vous pourrez être sensible à une pause. Donc là je vous fais une autre représentation un petit peu de ça, donc surimposé sur un ciel de l'hémisphère sud du Chili, donc pris au niveau du VLT. En fait vous avez en représentation réelle la taille dans le ciel d'une pause de ces divers instruments, et vous voyez que LSST effectivement est très dominant. Le Hubble, vous ne le voyez pas, c'est vraiment un point infiniment petit sur cette pose, et en contrepartie effectivement vous voyez pour des tailles de miroir qui en pratique sont à peu près du même ordre, en sachant qu'en étant dans l'espace on a à peu près un facteur 2 de gain en étant hors de l'atmosphère. Donc ça c'est effectivement la clé pour voir un plus grand volume d'univers possible, avoir une très grande étendue. Ce n'est pas le seul, donc sur ce schéma ici, vous avez représenté pour un certain nombre d'instruments, donc la majorité sont actifs, en fait, il n'y en a qu'un qui est en construction là, mais ça vous donne une idée de comparaison, et donc en fonction de cette étendue, donc en gros du volume d'univers auquel vous êtes sensible, donc effectivement, vous voyez que LSST est un gain très important par rapport à ces projets existants, mais en fait, on a aussi un autre facteur qui entre en compte, c'est dans un observatoire, en général, un télescope est utilisé pour plusieurs programmes et il n'est pas utilisé pour une seule activité à un moment donné. Il partage son temps à plusieurs programmes scientifiques et en particulier, aujourd'hui, on peut dire que l'instrument qui est le plus sensible en activité, qui est le Subaru, Pan-STAR, en fait, n'a pas atteint ce mode de fonctionnement-là. En fait, il est à peu près au quart de sa capacité initialement envisagée, qui est celle qui est représentée ici. Le Subaru est un télescope qui a beaucoup d'instruments disponibles, et aujourd'hui, sa caméra HSC est utilisée qu'une seule fraction de son temps, et à d'autres moments, il fait d'autres choses, de la spectroscopie, entre autres, et d'autres programmes observationnels. Et donc, c'est là aussi où il y a une évolution dans la cosmologie observationnelle, c'est effectivement de maximiser le temps d'observation, et donc de faire des instruments dédiés. Et donc, c'est sur ces deux points qui sont vraiment à la base du design de LSST, de la conception de LSST. Donc, c'est augmenter le plus possible l'étendue. Et donc, pour ça, en fait, plus qu'augmenter la taille des miroirs, donc qui permettrait d'aller voir plus loin, c'est surtout l'augmentation à travers l'augmentation du champ de vue. Alors, pourquoi ? Il faut remarquer que depuis le sol, en fait, nous avons l'atmosphère qui bloque en particulier tout le signal infrarouge, et que ce signal infrarouge correspond aux objets les plus lointains qui, malheureusement, ne sont pas accessibles du sol. Ce qui fait qu'en fait, augmenter la taille d'un miroir, à un moment donné, ne va pas vous permettre de voir vraiment beaucoup plus loin, ou en tout cas, le prix à payer va être énorme en fonction de la taille du miroir. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'augmenter le champ de vue si vous voulez augmenter le volume. Et en fait, au niveau du sol, il y a une sorte de mur, qui est ce mur infrarouge, qui ne peut être franchi qu'en allant dans l'espace. Mais aussi, donc, l'autre volet qui va être utilisé pour augmenter donc le volume d'univers observé, ça sera d'augmenter le temps dédié. Et LSST, dans ce cadre, en fait, est le premier télescope de cette taille, donc de la classe des 8 mètres, où 100% du temps est dédié au survey. Et non seulement ça, mais en plus ça, le temps de survey lui-même sera de 10 ans, ce qui est au moins un facteur 2 par rapport au survey en cours actuellement dans ce domaine. Donc voilà, donc LSST, c'est donc non seulement un télescope, non seulement une caméra, mais aussi un plan d'observation, et c'est en ça qu'on arrive vraiment à maximiser, à faire le mieux que l'on peut pour sonder le plus grand volume d'univers. Bon, je vais rapidement vous présenter LSST en tant que projet observationnel. Donc, c'est un relevé de 10 ans dans le domaine optique qui est en fait aussi non seulement qui couvre donc un volume d'univers, donc une grande profondeur, une grande surface, mais aussi qui le fait rapidement. Et ça, c'est une autre dimension, c'est-à-dire que dans LSST, il y a la dimension temporelle, mais j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Et donc, il dépose donc sur un télescope de la classe des 8 mètres, donc avec une très grande caméra, donc qui est en fait, comme je disais précédemment, un champ de vue important, et donc de plus de 3 milliards de pixels. L'autre facteur qui a déjà été indiqué dans la présentation précédente par Mme Françoise Combes, c'est le caractère important du traitement des données. Et aussi, c'est très joli d'avoir collecté énormément d'images, mais en fait, pour l'analyse scientifique, il est très important de faciliter cette étape d'analyse. Et donc là, effectivement, aussi intégrer dans le projet LSST toute la partie traitement et mise à disposition des bases de données pour faire une analyse scientifique, disons, avec des outils simples, sans avoir retourné à l'âge de la pierre et gratter soi-même les pixels, est directement inclus dans le projet, y compris la fourniture en temps réel des transients, donc des objets variables. Sur cette décade d'observation, le nombre d'images collectées est très important. Donc, il y aura 5 millions d'images collectées, avec un catalogue de plus de 37 milliards d'objets qui seront donc suivis. Et quand je dis suivis, ça fait à peu près chaque objet sera observé plus de 800 fois. Donc, ça fait 7 téra de détection. Et en fait, plusieurs dizaines de milliards de transients seront détectés, c'est-à-dire des objets variables ou des objets mobiles, comme des astéroïdes, seront détectés pendant ces 10 ans. Donc c'est un volume très, très important d'objets. Et à partir de ça, effectivement, le spectre scientifique qui va être couvert va au-delà de l'énergie noire et de la matière noire. L'énergie noire et la matière noire, l'étude de l'énergie noire et la matière noire est au cœur de LSST, mais afin d'augmenter aussi le soutien de la communauté scientifique, et en même temps vu aussi la lourdeur de l'investissement, le LSST a été conçu pour couvrir un très large spectre scientifique qui va donc des petits corps du système solaire à le système solaire lui-même, la Voie lactée dans les détails, en particulier l'étude du halo, et effectivement aussi de manière générale toutes les études des galaxies, donc ces dizaines de milliards d'objets. Alors pour faire ça, je vais vous parler donc maintenant à peu près dans les 10 minutes qui suivent d'un petit peu plus précisément l'instrument lui-même. Donc c'est un instrument qui est très massif, qui fait 350 tonnes, mais en fait qui est pratiquement aussi haut que large, donc qui a une possibilité de se déplacer très rapidement. Et en particulier, il va faire un pointé toutes les 39 secondes et se déplacer donc de 3,5 degrés, c'est-à-dire d'un pointé à un autre, en 4 secondes. En gros, c'est un appareil qui est finalement capable de couvrir la totalité du ciel visible en une nuit. Et ça, c'est effectivement unique, en sachant que, par exemple, que le SDSS, qui est disons le projet de référence pour le survey du ciel sur des grandes surfaces, a fait disons l'hémisphère nord à une profondeur relativement faible en 3 ans. Donc là, on voit qu'en une nuit, on fait quelque chose qui n'a jamais été fait à présent. Et donc l'intérêt de l'étendue est combiné ici donc à une très grande rapidité de réalisation. Mais avoir un télescope qui va vite, ça suffit pas. Il faut pouvoir collecter et enregistrer les images tout aussi rapidement. Et pour ça, il y a eu un effort très particulier qui a été fait dans LSST afin de pouvoir avoir cette cadence qu'on peut qualifier d'infernale. C'est très bien de collecter suffisamment de photons, donc d'avoir un grand miroir pour faire, disons, atteindre une magnitude de l'ordre de 24,5 en 30 secondes. Mais encore faut-il pouvoir avoir des temps morts, enfin les temps nécessaires à la lecture de l'image, qui soient suffisamment courts. Il faut voir que dans un observatoire normal, pour un CCD normal, un système de lecture normal, les temps de lecture sont de l'ordre de 30 secondes, une minute, qui est à peu près le temps normal. Donc si vous observez pendant 30 secondes et que vous passez après une minute à collecter l'information, votre gain est relativement nul. Donc il y a eu des développements très importants, en particulier sur les temps de lecture, afin de pouvoir lire ces milliards de pixels à un temps relativement faible. Et effectivement, il y a un peu plus d'un ordre de grandeur qui a été gagné à LSST avec des développements technologique, en particulier avec un certain niveau de multiplexing au niveau du CCD, c'est-à-dire qu'au lieu de faire passer tous les pixels entre guillemets par le même canal de vidéo de lecture, ce qui est le cas de figure normal dans un CCD, il y a eu un multiplexage et on a développé des CCD qui sont capables, dans le cadre de LSST, d'être lus 16 fois plus vite avec 16 canaux différents. Alors, le prix à payer, c'est un nombre de canaux électroniques extrêmement important. Il y a plus de 3000 canaux électroniques de reconstruction vidéo dans LSST, quand on sait qu'une caméra, les caméras existantes, c'est plutôt inférieur à la centaine dans ce domaine optique. Donc c'est plus, mais c'est le prix à payer pour la vitesse, et je ferai un commentaire tout à l'heure sur le changeur de filtre, par exemple, qui est la même chose, a été conçu pour pouvoir voir le ciel à grande vitesse. Donc, pour résumer en une seule transparente, enfin une seule diapositive, qu'est-ce que c'est que le survey LSST ? Vous avez ici une image donc du ciel vu par l'hémisphère sud. LSST va être installé au Chili avec le nombre de visites pour chacun du point du ciel dans un filtre ici R. Il faut voir que LSST donc, va avoir 6 filtres hein, pour observer le ciel dans divers domaines de longueur d'onde et va revenir donc, périodiquement sur la même zone du ciel. Et vous voyez ici, en zone de couleur, que certaines zones du ciel vont être observées plus de 200 fois, la majorité étant à peu près 200 pour ce filtre spécifique au cours de 10 ans. Pour chacune des visites, en particulier pour ce filtre-là, on a une sensibilité entre 24, enfin disons 22 pour le filtre Y, donc qui est le filtre le plus rouge, mais disons pour la partie centrale du domaine spectral autour de 24,5. Et au bout de 10 ans, on va dépasser des magnitudes 27, c'est-à-dire à peu près deux ordres de profondeur plus grands que ce qui est fait avec les observatoires classiques. Par exemple, Euclide, sa sensibilité sur une pose, qui malheureusement est le nombre de poses qui sera faite dans un filtre donné sur le ciel, sera seulement de l'ordre de 24-25. Et donc, il y a effectivement plus de deux magnitudes, de plus de profondeur, comme l'a montré précédemment Françoise, pour cet observatoire. Donc, l'objectif, c'est d'aller vite, aller très profond et de couvrir une très grande surface. Donc, effectivement, le prix à payer sur ça, alors c'est l'objectif, mais en même temps, c'est le coût, c'est le volume de données à traiter, qui est donc pour ces dizaines de milliards d'objets et cette histoire de plus de 30 téra observations, d'un nombre très important, d'un volume très important de données à traiter. La base de données elle-même, c'est-à-dire la base de données, une base de données, je dirais, classique, hein, comme, avec pour chaque objet un certain nombre d'informations, contiendra 15 pétaoctets d'informations, et c'est elle qui sera utilisée pour une grande partie de l'étude scientifique et sera mise à disposition des chercheurs. La communauté scientifique de l'SST, bon, c'est une communauté internationale. Bon, je fais juste un petit commentaire. Donc, il y a 50% des chercheurs, sur à peu près le millier, viennent des États-Unis, mais il y a effectivement une contribution internationale pour le reste des 50%. La France et le Chili ont un petit statut un petit peu particulier, puisque nous sommes les deux pays qui participons à divers titres à la construction elle-même. Le reste des participants, en fait, contribueront au coût d'exploitation. Le coût d'exploitation n'est pas à négliger dans un projet de ce type-là. Pour un coût de construction de l'ordre de 700 millions de dollars, il y a plus de 300 millions qui seront en fait le coût d'exploitation et de traitement des données pendant l'exploitation du projet. D'accord ? Donc, le projet a démarré sa construction en 2014. Voici un petit calendrier. Donc, le début officiel de la construction, c'est 2014. La première lumière du télescope, avec pas la caméra finale, mais ils ont une caméra de test, c'est pour fin 2019. La caméra intégrée au sommet, c'est 2020. Les réglages d'un instrument aussi complexe sont relativement longs. En fait, il y a une assez grande marge qui a été donnée, inclue dans l'SST. Et en fait, le vrai programme scientifique, hein, ouvert à l'ensemble de la communauté, est prévu pour la fin 2022. Alors, je vais vous montrer, j'espère que ça va apparaître, donc deux petits films, ça va être plus vite dit, en images. Donc, effectivement, le projet se trouve dans une partie à pas très grande altitude, hein, c'est moins de 3000 mètres au Chili. Les travaux pour l'aménagement du site, en fait, ont bien commencé bien avant 2014 sur des fonds privés. Il faut voir qu'il y a des étapes de construction qui sont très, très longues. L'ouverture, en fait, disons, l'inauguration a eu lieu en 2015 avec Mme Bailey, donc la présidente du Chili. Donc, vous voyez l'état du site en 2015. Il faut voir qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là, plus ou moins, que les fonds publics sont arrivés. La construction proprement dite au niveau public ayant démarré en 2014, le travail sur le site, en fait, a commencé dès 2011. Aujourd'hui, ben, le bâtiment commence à avoir pris forme et effectivement, on attend avec impatience les trois prochaines années où le site sera complètement installé, donc avec le télescope, la caméra, mais aussi vous voyez qu'en fait sur le site, il y a en gros une sorte d'usine qui va être utilisée pour réaluminiser le miroir de façon régulière. C'est un petit peu moins tous les deux ans, en fait, il faut retraiter le miroir afin de maximiser sa capacité de réflexion. Puis, dans le cadre de l'SST, il y a un petit télescope qui fait aussi partie du projet, qui est là pour calibrer l'atmosphère en temps réel pendant qu'on observe le ciel. Alors, j'ai à peu près la même chose, disons, d'un point de vue moins site, mais plus instrument et télescope. Donc, vous avez un peu une idée du côté un peu ramassé de ce télescope, hein, qui fait que le centre de gravité est assez bas, donc ce qui lui permettra de se déplacer très vite et donc de pointer très rapidement sur le ciel. Vous avez l'échelle ici, vous avez un petit personnage. Bon, c'est un système un peu en pelure d'oignon. Hein, donc, il y a une particularité qui est le miroir primaire tertiaire qui contient à la fois les deux. Donc, ici, vous avez à l'échelle donc, la caméra. Donc, vous voyez le plan focal avec les CCD et vous avez autour les filtres qui sont là en mode, disons, repos. Et vous en avez un donc, qui va dans le plan focal. L'objectif étant évidemment de sélectionner une fraction du domaine spectral pour, disons, augmenter la quantité d'informations. Et là, il faut voir que ce changement de filtre dans le cadre de l'ST va prendre moins de 2 minutes. HSC, qui est aujourd'hui, disons, ce qui se fait de mieux dans le grand champ au Subaru, il leur faut plus de 20 minutes pour changer un filtre. C'est une opération très délicate, parce qu'en général, il y a très peu de place. Toute la place prise, en fait, masque le champ, et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir le moins de pertes possible. Ici, c'est en août 2008, le moment de l'ouverture du four dans lequel a été fabriqué le miroir primaire. Donc là, vous le voyez avant son polissage, juste à la sortie du four. L'ingénieur en charge vérifie qu'il n'y a pas eu de défaut de fonte. Ça, c'est un événement qui a eu lieu en 2008. Et la fin du polissage, c'est 2015. Là, on doit dire merci aux investisseurs privés, entre guillemets, qui ont permis donc, que le projet puisse être dans le calendrier que je vous ai présenté, à savoir avec une mise sur le ciel en 2021. Donc là, vous avez un élément clé qui est enfin une fraction, c'est à peu près 5% du plan focal, et vous voyez l'ensemble de l'électronique associée, qui est effectivement un des développements très important, comme je vous disais tout à l'heure, pour la vitesse de lecture de ce système. Là, vous avez en fait quelque chose qui se trouve actuellement sur Jussieu, qui est le test du système de changeur de filtre. Ça, c'est un démonstrateur. Il faut voir que cet appareillage va devoir tourner pendant 10 ans. Il y a énormément de parties qui ne seront pas accessibles une fois installées. Et bon, le système va être installé dans des meilleurs endroits de la planète pour l'observation, en particulier au niveau de la qualité constante de l'atmosphère. Hawaï, par exemple, est très très bien aussi, mais a des fluctuations de météo qui fait que le temps d'observation en fait, n'est pas si intéressant. Le Chili, c'est pas mal, mais le Chili aussi est l'endroit où il y a énormément de tremblements de terre. Il y a la moitié de l'énergie sismique est libérée au Chili, et donc avoir un instrument robuste qui va fonctionner pendant plus de 10 ans, c'est un challenge, et donc il y aura énormément de tests qui seront faits, qui, en fait, qui ont démarré actuellement. Bon, ça, c'était une petite vision donc, pratique de l'instrument pour vous montrer qu'on est dans le monde réel. Maintenant, je vais essayer de vous introduire quelques aspects donc, de ce qu'on va faire avec cet instrument d'ici un peu plus de 3 ans. En particulier, donc, vous avez là une comparaison, bon, ça c'est effectivement un peu pour se faire mousser, avec ce qu'on faisait de mieux, disons, à la décennie passée. Et donc ça, c'est pour ce qu'on fera de mieux dans la décennie future, donc avec le LSST. Donc aussi bien en qualité d'image qu'évidemment en profondeur, de champ, on va avoir un gain énorme. Au niveau de la conception, comme je vous disais précédemment, même si l'étude de l'énergie noire et de la matière noire sont au cœur, au niveau du design, il y a eu la décision en fait, d'ouvrir les champs scientifiques et d'essayer d'intégrer dans le design, sans perdre, évidemment, pour l'étude de l'énergie noire et de la matière noire, d'essayer d'ouvrir les champs scientifiques. Et en particulier, pour le design, il y a 4, disons, thèmes scientifiques qui ont été utilisés afin de définir le design de LSST, donc, c'est-à-dire de faire une étude la plus complète possible des objets mobiles du système solaire. Et donc, effectivement, là, on arrive à effectivement, un plan d'observation, une vitesse d'observation importante. Cartographier en détail la structure de la Voie lactée, y compris sur les parties qui ne seront pas possibles d'accès à part Gaïa pour des raisons de magnitude, c'est-à-dire que ces objets qui sont trop faibles, et donc en particulier toute la partie du halo. Explorer l'univers variable, là aussi, donc la composante temporelle du système, et puis, bon, évidemment, travailler, comme je disais précédemment, à la détermination de la nature de l'énergie noire et de la matière noire. Et donc, l'ensemble de ces contraintes ont fait de LSST quelque chose qui sera, disons, qui est un peu notre assurance-vie, c'est-à-dire que pour des projets qui sont aussi longs d'être mis en place, c'est un projet qui peut couvrir énormément de champs de science, et donc on espère qu'il ouvrira aussi d'autres fenêtres, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé au moment de sa conception. Je ne vais pas m'étendre en fait sur cette introduction, sur cette partie-là, qui est la partie énergie noire, qui est quand même le cœur de ce que je serais censé vous parler en détail. Ça vous a, enfin, on vous l'a déjà pas mal présenté. Je vais juste plutôt souligner l'intérêt et disons les particularités de LSST dans ce cadre. D'accord. Donc il y a 4 sondes qui sont accessibles de manière générale dans un système optique photométrique du type de LSST, qui sont donc les lentilles faibles, les oscillations acoustiques de baryons, mais en utilisant pour les redshifts des redshifts photométriques et donc pas des redshifts spectraux, qui donc évidemment sont relativement moins précis, qui font de cette sonde quelque chose qui est moins intéressant, par exemple, de ce qui pourrait être fait par DESY. Les supernovas, donc là où le caractère observation périodique du ciel est indispensable, mais aussi évidemment la profondeur et la qualité optique, et donc les amas de galaxies. Là, il faut voir que le LSST couvrant un très grand volume de ciel avec, en revenant très souvent et avec une très grande précision de couleur va pouvoir donner une vision de l'univers, en particulier au niveau des amas, en remontant à des grands redshifts et avec aussi une très grande précision. Sur l'ensemble de ces observables, il faut remarquer en particulier qu'il y a une optimisation différente et qui est très complémentaire par rapport à celle de l'espace et donc par rapport à ce qui aura été fait pour Euclide. La différence principale, évidemment, c'est que Euclide dans l'espace n'a pas affronté l'atmosphère. Et ça, évidemment, si vous voulez faire des mesures de lentilles faibles, c'est très intéressant parce que les lentilles faibles étant une déformation de quelques pourcents de la forme d'une galaxie, quand je dis quelques, c'est plutôt 2%, pouvoir mesurer précisément ces formes et pas avoir cette espèce de floutage réalisé par l'atmosphère, c'est effectivement très intéressant. Le pari qui a été fait du côté de VLSST, c'est de dire qu'on va pouvoir contrôler cette perturbation atmosphérique, donc qui est très très fluctuante, en revenant de façon très récurrente sur la même zone du ciel, et qu'on va arriver donc à déconvoluer ces effets atmosphériques, mais aussi les effets instrumentaux. Il faut voir qu'un des paris qui est fait dans le cadre de Clyde, c'est d'arriver à contrôler la stabilité instrumentale et de considérer que l'instrument va être compris et stable au cours du temps. Dans le cas de LSST, l'instrument peut être variable, mais en revenant systématiquement sur les mêmes zones du ciel, on va espérer pouvoir tracer cette variabilité. Et donc ces deux approches, qui sont effectivement complémentaires, font, disons, essaient de faire un avantage d'un inconvénient, ou disons un atout d'un inconvénient instrumental au départ. Et donc ça, je dirais que c'est la grande différence. L'autre différence, évidemment, c'est la magnitude limite à laquelle LSST va travailler, qui permet donc effectivement d'atteindre des densités de galaxies. En fait, pratiquement, c'est ce que vous pouvez espérer de faire le mieux au sol, pour la bonne raison que si vous en voulez plus, il faudrait pouvoir aller dans l'infrarouge, et que, comme je disais précédemment, du sol, ce n'est pas possible. Et donc, en fait, globalement, LSST du sol va pouvoir détecter l'ensemble des galaxies que l'on peut voir du sol. Et ça, bon, c'est quand même un avantage, parce que cette densité d'objets permet donc une étude très fine, et donc permet aussi de sélectionner au mieux les objets et de les étudier, et donc va être effectivement permettre de travailler sur quelque chose de robuste. Il faut voir qu'aussi la mesure de Lensing est quelque chose qui est très sensible au bruit, et la qualité de la mesure est très sensible au bruit de mesure, et dans le cas de LSST, le bruit sera plutôt la partie venant de la perturbation atmosphérique que le bruit associé au flux proprement dit. Et donc ça, c'est un grand atout. Je m'en vais maintenant peut-être faire un commentaire aussi sur l'intérêt d'avoir plusieurs sondes. Le commentaire ici, en fait, se voit sur ce plot. Donc là, en gros, c'est le temps, hein, donc le volume observé. Hein, donc ça, c'est pour les 10 ans de survey. Et ici, vous avez donc sur le facteur de mérite, donc le produit de ces fameux WA et W, donc la partie qui varie temporellement et la partie, disons, plutôt constante de l'équation d'état de l'énergie noire. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est pour les diverses sondes, les précisions espérées. Vous voyez que bon, le weak Lensing est la mesure de la décennie à venir, que ce soit avec Euclide, que ce soit avec LSST. Pour ces systèmes optiques, c'est la sonde qui devrait permettre les plus grands progrès dans la compréhension de l'énergie noire, par rapport en particulier aux supernovas, qui aujourd'hui sont certainement notre sonde la plus précise, et le BAO, qui est vraiment en train d'acquérir ses lettres de noblesse actuellement, et qui va encore plus se renforcer avec DESY, qui va démarrer d'ici 2 ans, donc qui est un survey spectral de l'hémisphère nord dédié au BAO sur un 4 mètres. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que en fait, le gain en combinant ces diverses sondes n'est pas du tout ce qu'on attendrait si on faisait le calcul avec des bonnes racines carrées, puisque vous voyez que nous gagnons pratiquement un ordre de grandeur par rapport à la meilleure mesure. Et en fait, il faut voir que dans chacune de ces mesures, on a des facteurs de nuisance, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, effectivement, ce sont les W. Ce qui nous intéresse probablement, c'est aussi oméga M. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a sigma 8, chacune de ces mesures, en fait, a des facteurs supplémentaires qui sont des facteurs cosmologiques, certes importants, mais qui, pour l'énergie noire, ne sont pas forcément ce qu'on voudrait mesurer et qui, en fait, sont ce qu'on appelle des paramètres de nuisance. C'est mesurer plusieurs sondes qui elles-mêmes sont des sensibilités différentes par rapport à ces paramètres, permettent de réduire leur caractère de nuisance et donc sont un gain important dans la qualité de la mesure. Et là, il est clair que de faire ça de façon consistante avec le même jeu de données est un intérêt très fort dans le cadre de LSST. Et vous avez ici, bon, effectivement, aussi le même schéma, donc cette fois, effectivement, dans le plan W0, WA. Et vous voyez, effectivement, ou en combinant l'ensemble des informations, y compris en prenant des priors sur les données de Planck, vous voyez le gain que vous obtenez par rapport aux sondes individuelles. Donc ça, c'est pour la base, disons. Le Lensing, oui, c'est notre avenir. Maintenant, je vais vous parler de l'autre domaine qui est, disons, très spécifique au niveau de LSST, qui est le domaine temporel. Le domaine temporel est effectivement est un des objectifs observationnels de LSST. Et donc là, dans ce schéma, vous avez ici l'échelle du temps, c'est-à-dire en gros, pour une supernova, ça peut être le temps où sa luminosité baisse d'un facteur 2. Vous voyez qu'en fait, dans les systèmes d'observation actuels, une sensibilité d'un jour, c'est-à-dire revenir tous les jours sur le même champ, on peut le faire, mais au prix que ce soit des objets qui soient très brillants. Pour la majorité des cas, et si jamais vous avez des objets qui sont faibles, ça devient plus cher de regarder tout le temps le même endroit, où le volume de ciel que vous allez couvrir va être relativement faible. Et donc, en fait, dans le domaine de la variabilité, dans le domaine optique, les domaines couverts, en fait, est assez faible. Et il y a tout un domaine ici, et par ici, c'est-à-dire pour les domaines assez faibles, de luminosité assez faible, où, jusqu'à présent, ce sont des domaines qui sont inexplorés. Et LSST, effectivement, va ouvrir, disons, entre la seconde et l'année, par son programme d'observation, va permettre donc, et ça, je peux peut-être revenir juste vite fait, c'est une erreur ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. En fait, par son programme d'observation, d'une part, la même zone du ciel est observée deux fois juste l'un derrière l'autre, d'accord ? Donc avec, disons, le temps juste de lire et de fermer le shutter. Donc il y a deux pauses de 15 secondes et entre-temps, donc une pause de 3 secondes, puis on se déplace pour aller regarder ailleurs. Mais en même temps, sur une même nuit, on revient sur le même champ 15-60 minutes plus tard et on revient sur le même champ 3-4 nuits plus tard. Donc effectivement, il y a, avec ces séquences d'observation, il y a un domaine temporel très très large qui sera couvert et qui va donc effectivement de quelques secondes ici à quelques nuits là et quelques minutes sur là. Donc effectivement, le domaine temporel couvert va être très important du côté de LSST. Alors à partir de ça, effectivement, il va y avoir un très grand nombre d'objets variables qui vont être observés. Surtout si vous êtes dans le plan galactique, les étoiles, la chose qu'elles adorent, c'est être variables, c'est changer. Donc il y a beaucoup de triggers, en particulier quand on sera dans le plan galactique, qui sont issus des étoiles variables. Bon, il y aura un petit peu moins de triggers aux étoiles quand on sera hors du plan galactique, et quand même la majorité du temps pour LSST. Et aussi, vous avez ici le résultat un peu de ce qui s'est obtenu sur des projets qui sont un petit peu comparables à LSST, mais évidemment qui ont duré beaucoup moins longtemps. C'est qu'en majorité, il y a beaucoup d'objets variables, en particulier les astéroïdes. On est entouré, notre système solaire, il y a beaucoup d'objets qui sont... peu de géocroiseurs, mais enfin, beaucoup d'astéroïdes quand même. Et de manière générale, disons, les transients astrophysiques qui nous intéressent sont relativement peu nombreux par rapport à l'ensemble des objets variables, mais évidemment, sont, disons, au cœur de la science, en particulier pour la cosmologie, qui pourra être fait avec LSST, en particulier en ce qui concerne ici les supernovas. Il faut voir que tous ces triggers, y compris pour les astéroïdes, pour n'importe quoi, seront publiés en temps réel par LSST. Et il est clair aussi que dans ce cadre-là, la base de données qui donne l'historique pour cet objet au cours du temps sera fondamentale pour classifier ces divers transitoires optiques. Pour vous donner une idée des statistiques, là, il y a un projet donc, qui s'appelle PTF, donc, qui était sur un télescope beaucoup plus petit que LSST, au Mont Palomar, mais qui est effectivement celui qui a consacré un temps continu d'observation à des magnitudes certes plus faibles, qui a obtenu disons, des taux par an pour ces divers types de supernovas. Bon, disons, celle qui, pour la cosmologie, nous a le plus aidé jusqu'à présent, c'est les supernovas de type 1A, et donc, effectivement, a obtenu de l'ordre de 700 par an. Il faut voir que le programme SNLS, donc, qui a donné des contraintes très fortes sur l'énergie noire, a fait ça avec à peu près, disons, la première fois, c'était moins d'une centaine. Aujourd'hui, on est à moins de 500, donc très bien mesuré des supernovas à grand redshift. Et là, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas deux ordres, c'est plutôt trois ordres de grandeur qui sont visés avec LSST à cause du volume d'univers qui va être observé. Et il faut voir que là, évidemment, les contraintes vont être, disons, les problèmes vont être très différents des problèmes qu'on a abordés jusqu'à présent dans ce domaine. Aujourd'hui, la difficulté, c'est avoir des courbes de lumière bien mesurées, avoir un peu de statistiques, le plus d'objets possible. Là, il est clair que le combat sur les systématiques et sur la qualité de la métrologie, en particulier de la qualité de la calibration de ces objets, sera au cœur. Et en fait, nous avons aujourd'hui des programmes parallèles qui essaient de définir des standards le plus précis possible pour s'absoudre de certaines de ces systématiques. Enfin, s'absoudre, ça sera impossible, mais enfin, au moins de réduire l'impact de certaines de ces systématiques. Je vous donne un exemple de l'intérêt spécifiquement pour les supernovas d'un programme tel que l'SST. On peut le considérer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est typique de la mesure de l'énergie noire à l'aide de supernova, c'est-à-dire qu'on fait un diagramme de Hubble. Dans le diagramme de Hubble, en gros, on donne le flux de l'objet en fonction de son redshift. Et ce qui peut être très intéressant dans LSST, c'est qu'on peut faire ça pour divers pointés, c'est-à-dire dans chaque zone du ciel, dans diverses zones du ciel, on peut reconstruire donc ce diagramme de Hubble, re-estimer à partir de ça quel est le taux d'expansion de l'univers, quelles sont les propriétés de l'univers pour ce point-là, et de comparer. Et effectivement, si on trouve des inhomogénéités, ce sera une indication évidemment qui sera intéressante. Mais aussi, et ça c'est un autre point qui je pense est intéressant, qui est peu souligné jusqu'à présent, bien que en particulier la mesure de H0 qui est un problème de tension. L'inconvénient qu'on a avec le Lensing et le BAO, ce sont des sondes qui nécessitent un gros volume d'univers pour être contraignantes, pour être intéressantes. Et en particulier, disons qu'en dessous d'un redshift, disons de 0.2, ces sondes deviennent très peu performantes parce que le volume d'univers, c'est-à-dire l'univers relativement proche, il est petit pour ces sondes et elles ne peuvent pas, elles sont limitées par la variance cosmique et elles n'ont pas, disons, une pertinence aussi bonne qu'à plus grand redshift. Pour les supernovas, c'est une question de temps et de patience, je dirais. C'est qu'effectivement, si on peut utiliser les supernovas, disons, proches, donc qui sont d'un redshift inférieur à 0.2, 0.1 étant, disons, les valeurs intéressantes, il y a deux domaines dans ce domaine-là. Il y a le domaine qui est dans le flot de Hubble et celui qui est en dessous, c'est-à-dire qui est vraiment l'univers très local. Et les deux ont des intérêts très intéressants pour, disons, contraindre l'univers récent. Je veux dire, si l'univers est en expansion accélérée, nous sommes en plein dedans. Et donc, voir si aujourd'hui, ou disons, dans un passé récent, quelle était cette évolution-là, peut être effectivement s'avérer très intéressante. Et c'est effectivement ce qu'on pourra espérer faire avec LSST. LSST a l'avantage donc, de couvrir une très grande surface de ciel. Si vous trouvez une très grande surface de ciel, si vous regardez un redshift petit, c'est-à-dire finalement un volume qui va être relativement petit en fonction de la distance, mais votre grande surface va vous permettre de compenser ça par avoir donc finalement un volume d'univers qui n'est pas si ridicule que ça. Et ça, c'est ce que espère faire LSST. Regarder supernova proche, ce n'est pas très difficile dans l'absolu. C'est des objets qui sont brillants. Le problème, c'est que le ciel est très grand. Et regarder au bon endroit au moment où elle meurt, c'est très difficile. LSST, scannant le ciel en permanence, va être capable de voir ces objets proches et donc de pouvoir effectivement les donner pour un suivi et pour une mesure de diagramme de Hubble pour étudier l'univers proche. Il y a une autre partie qui est intéressante dans cet univers variable et que va pouvoir ouvrir LSST de façon statistique intéressante, c'est à travers les lentilles fortes. Donc on a parlé des distorsions faibles donc des galaxies par le champ gravitationnel, mais bon, comme vous le savez, il peut y avoir la version plus violente, en particulier qui donne naissance à ce qu'on peut appeler les croix d'Einstein. Vous en avez une très, très jolie ici. Il s'avère qu'en fait, ça, c'est le premier, pour l'instant, le seul événement de ce type qui a été détecté, à savoir une supernova qui a été vue à travers une lentille forte. Et donc, vous voyez ici, entre le 23 février et le 10 novembre, l'arbre de Noël s'est allumé à plusieurs endroits, et en quatre endroits très précisément. Et en fait, l'information, les temps de retard entre ces divers objets apporte une information très très importante, très très intéressante sur en fait les constantes de Hubble, disons, on peut reconstruire à partir de ça un diagramme de Hubble au niveau de la lentille. Et donc, à partir de ça, on peut construire un diagramme de Hubble qui n'est pas du tout sensible à quoi sont sensibles les autres diagrammes de Hubble. Le problème de ce genre d'événement, c'est qu'évidemment, il est très rare. Mais LSST, en couvrant une très grande fraction du ciel, peut espérer en voir plusieurs centaines et donc de passer de quelque chose qui est, disons, un peu une attraction, à quelque chose avec lequel on peut espérer faire de la science de façon relativement très décorrélée des autres sondes utilisées jusqu'à présent. Bon, évidemment, les lentilles fortes ont aussi beaucoup d'autres intérêts. Mais on va pouvoir rentrer, disons, ça c'est un des intérêts de LSST, ce qui est aujourd'hui, disons, un petit peu exotique, va pouvoir devenir demain un outil pour faire la science de l'énergie noire qui nous intéresse. Dans ce cadre, il y a un autre objet qui est, enfin, disons, une autre sonde qui, pour l'instant, paraît encore plus exotique pour faire l'étude de l'énergie noire, ou disons, de l'expansion de l'univers, à savoir les ondes gravitationnelles. Jusqu'à présent, jusqu'à 2014, disons, LIGO, Virgo, se contentaient d'un télescope d'un mètre pour essayer de trouver la contrepartie optique des signaux d'ondes gravitationnelles qui n'ont pas été détectées à l'époque. Le gain qu'a fait Advanced LIGO, Advanced Virgo c'est d'augmenter le volume d'univers sondé et donc évidemment d'être sensible a priori à des objets qui sont plus faibles. Et là, le problème change. C'est que si on veut voir la contrepartie optique, eh bien, il faut pouvoir regarder un volume d'univers plus grand et donc plus profond, et en fait avec une surface qui est assez grande, et je vais revenir sur le point de la surface assez grande après. Et alors, vous allez dire, bon, quel est l'intérêt de voir la contrepartie optique? Certes, pour faire de l'astrophysique de ces objets, certainement, mais il faut voir qu'en fait, en combinant l'information des ondes gravitationnelles avec le redshift qu'une contrepartie optique pourrait donner, on peut là aussi reconstruire un diagramme de Hubble avec ces objets-là. Et donc faire une étude là aussi complètement indépendante de l'expansion de l'univers. Alors il faut voir que pour la contrepartie optique, on a quand même un petit avantage parce que je vous parlais de millions d'événements dans un champ par jour. Donc voir une contrepartie optique, c'est un peu c'est regarder un arbre de Noël et se demander lequel est le bon, enfin quelle est la bonne lanterne qui clignote, celle qui nous intéresse. Alors il s'avère qu'on a un avantage, c'est quand même il y a un horizon qui est très proche, c'est-à-dire que le volume auquel Virgo et LIGO, du moins pour les quantités qui nous intéressent, qui ne sont pas les trous noirs à ce moment-là, qui sont plutôt les étoiles à neutrons, les coalescences de étoiles à neutrons, sont des volumes qui sont relativement faibles. Et donc ces volumes relativement faibles, en fait, si on se limite à ces volumes relativement faibles, le nombre de transients, enfin d'objets variables, lui, est très très faible. Et en particulier, effectivement, pour ce qui est de la recherche qui nous intéresse, donc de Advanced LIGO Virgo, si dans le champ qui nous intéresse, si vous avez peut-être 100 000 transients qui peuvent apparaître, une fois que vous vous limitez au volume d'univers qui vous intéresse, celui dans lequel effectivement vous pouvez avoir cette coalescence d'étoiles à neutrons, vous vous apercevez que le nombre de candidats attendus est très très faible, inférieur à 1, et donc a priori, vous pourrez, si jamais vous voyez un transient, avoir une bonne indication que c'est celui qui vous intéresse. Alors juste un petit commentaire, pourquoi LSST, dans ce cadre de recherche de contrepartie optique, est bien placée? Ben ça, c'est le problème de la triangulation qu'on peut faire sur les ondes gravitationnelles. C'est qu'en fait, une antenne gravitationnelle, à part détecter un signal, elle n'est pas capable de dire d'où il vient. Si vous en mettez déjà deux, c'est un peu plus. Si vous en mettez trois, ce qui est le cas de Advanced Virgo plus LIGO, vous commencez à pouvoir faire de la triangulation. Mais malgré ça, la précision que vous obtenez, en particulier donc là, le chiffre qui est indiqué ici, c'est-à-dire la précision, la prédiction par Advanced Virgo plus LIGO d'une source, de la localisation dans le ciel d'une source d'une onde gravitationnelle va être faite avec une précision qui n'est pas très très bonne. C'est quelque chose de 1,75 degré de rayon et il s'avère que c'est à peu près effectivement le champ de vue de LSST. Donc, aujourd'hui, si vous avez un trigger qui vient, enfin disons un candidat d'onde gravitationnelle qui est trouvée par Advanced Virgo plus LIGO, ils envoient ces informations à DES qui doit faire en fait un nombre très important de pauses parce que d'une part, pour atteindre la profondeur, une profondeur de l'ordre de 23 ou 24 au niveau de la magnitude, mais aussi pour couvrir le champ qui correspond à peu près à 10 degrés carrés ou 20 degrés carrés. Le nombre de pauses qui sont nécessaires est très important et ne peuvent même pas être faites en une nuit. Et donc, à partir de là, effectivement, LSST, en une ou quelques pauses, pourrait atteindre les sensibilités qui permettraient donc de répondre à un trigger très rapidement pour une onde gravitationnelle et donc d'ouvrir ce domaine-là probablement à la cosmologie à ce moment-là. Alors, vous voyez ici le nombre de candidats. Alors ça, c'est un papier qui date de juste avant les objets qui ont été découverts. Donc, pour l'instant, les objets qui ont été identifiés par Advanced LIGO sont plutôt des trous noirs. Ils en ont relativement peu, mais il est clair qu'ils sont dans la phase de démarrage. Hein, donc, ils en attendaient 4-5 pour 2015-2016, enfin, de l'ordre de 4. Et puis, ils avaient un peu peur qu'ils en aient 0. Il s'avère qu'ils en ont plus de 2, donc c'est déjà un bon signe. Enfin, 2, en tout cas, qui ont été publiés. Les années qui viennent, en particulier là, ce qu'on espère, c'est que Virgo va rentrer dans la danse et donc va commencer à permettre un pointé qui sera un peu plus précis. Hein, mais effectivement, le nombre de candidats attendus et à reconstruire vont commencer à augmenter. Il faut voir que dans les 2022, le nombre d'objets, en particulier pour ce qui est les coalescences d'étoiles à neutrons, on voit qu'on peut atteindre plusieurs centaines et qui seront effectivement des événements qui sont potentiellement, qui devraient avoir potentiellement une trace optique et qui donc potentiellement pourraient être utilisés à de la cosmologie du moment qu'on a une information de redshift indépendante. Et donc ça, c'est un nouveau domaine qui pourrait s'ouvrir pour nous dans les années à venir. Alors, manière un peu d'étendre le champ. Je vais vous donner 2-3 autres exemples de ce qui peut être fait avec LSST. Donc, bon, vous savez, les Américains, à force de faire des films genre Armageddon, ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête. Je croyais que c'était pour nous, mais enfin, apparemment, c'est surtout pour eux. Et donc, en fait, il y a une façon d'être soutenu financièrement aux États-Unis, c'est de s'intéresser aux astéroïdes et surtout aux géocroiseurs. Il s'avère que LSST, mais en fait, je vous en parle parce que c'est quelque chose d'instrumentalement intéressant, va être capable de voir pratiquement tous les géocroiseurs à partir de 140 mètres, et 140 mètres, c'est ceux qui sont considérés comme pouvant faire des dégâts majeurs sur Terre. D'accord ? Donc c'est en gros ce qui est représenté ici. Hein, donc c'est la taille par rapport à ce qu'ils peuvent faire comme impact. Hein, et donc là, c'est très mauvais pour la santé, et effectivement. Et donc là, vous avez les quelques-uns qui nous sont tombés sur la tête il n'y a pas très longtemps, celui-ci en particulier. Et donc, effectivement, l'objectif là, donc, c'est de voir ces géocraseurs et de pouvoir les observer. Mais il faut voir que par rapport à l'observation de LSST, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ces objets sont difficiles à voir pour deux raisons. C'est d'abord qu'ils sont faibles. Alors, si vous dites un objet faible, ça veut dire qu'il faut poser longtemps pour le voir. Mais si vous posez longtemps pour un objet qui bouge, eh bien, vous n'augmentez pas le contraste. Parce qu'en fait, à moins que vous sachiez quel est son sens de déplacement et que vous le suivez a priori, ce qui n'est pas le cas quand vous le détectez, vous avez un objet faible qui va vous traverser le champ et vous pouvez poser aussi longtemps que vous voulez, ça ne vous fera rien du tout. Augmenter le temps de pose ne change pas. Le gain de LSST là, c'est en fait sa rapidité et sa puissance de collecte qui permet de voir très rapidement des objets faibles. Et donc, effectivement, tous les objets qui se déplacent même vite, en 15 secondes de pose de LSST, ont une chance de laisser une trace détectable et donc d'être reconstruite. Donc, c'est un petit commentaire sur les propriétés assez particulières de LSST au niveau de l'observation. Un autre commentaire, en fait, sur la complémentarité de LSST. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure avec Euclide. Il y a un autre satellite aujourd'hui qui est dans l'espace, qui est en train de nous apporter son lot de données particulièrement impressionnantes, à savoir quant à une cartographie très précise de notre galaxie, en fait, même de nos voisines, qui est Gaïa. Qui fait une astrométrie de très très grande précision. Le seul problème de Gaïa, c'est qu'il a une sensibilité, c'est-à-dire qu'il est capable de voir des objets relativement brillants, donc à peu près d'une magnitude de l'ordre de 20. L'SST lui-même n'aura pas une résolution astrométrique qui va lui capable de comparable, donc qui est plutôt cet axe ici, pas du tout comparable à Gaïa, qui est dans l'espace, qui a été conçu effectivement pour voir des déplacements très très faibles, en particulier donc pour pouvoir regarder en fonction des saisons, donc quand la Terre a se déplacé de 6 mois, à savoir si les objets ont bougé pour à partir du parallaxe pouvoir estimer la distance, mais en contrepartie effectivement à une sensibilité au niveau magnitude qui est très très grande et qui va être très très complémentaire avec celle de Gaïa, et qui permettra effectivement d'avoir à partir, en combinant les deux jeux de données, une cartographie complète de notre galaxie, et donc aussi d'étudier à travers ça, non seulement dans quel état elle est aujourd'hui, mais quelle est son histoire, parce qu'à partir des traces de déplacement, on peut voir effectivement les restes, et disons les traces d'absorption de satellites, de galaxies satellites, qui auront été laissées comme traces par des vitesses locales, comme empreinte dans ces divers relevés. Je vais juste faire un autre commentaire qui est aussi lié à la cosmologie, c'est que notre sonde, c'est les galaxies. Donc LSST va avoir plusieurs dizaines de milliards qui vont être mesurés avec une très grande précision, et en soi, c'est un catalogue pour la cosmologie. Pas forcément dirigé directement sur l'énergie noire, mais qui, non seulement au niveau de la formation des structures, au niveau de l'évolution des galaxies, va être un outil très très important pour la compréhension, disons, astrophysique de base de l'univers qu'on regarde, et effectivement qui après auront et qui sont nécessaires aussi pour nos extractions d'informations de l'énergie noire, entre autres. Et il faut voir que là, le sondage, non seulement effectivement va être deux ordres de magnitude plus importants, enfin disons sur une très grande surface que ce qui existe jusqu'à présent, donc va atteindre donc jusqu'à 50 galaxies par arc minute carré. La base de données elle-même donc va introduire des dizaines de milliards de galaxies qui vont donc du groupe local jusqu'à des Z de l'ordre 6. Bon, alors évidemment, là, la complétude de l'échantillon sera assez faible. Il y aura tous les objets étant relativement rouges. En fait, on aura peu dans cette catégorie-là, mais enfin, il y en aura aussi. Et évidemment, la partie intéressante, donc, c'est au niveau 6 bandes. Donc, c'est des objets qui sont donc visibles sur tout le spectre auquel l'SST est sensible. Bon, ben, ça fait déjà quand même 4 milliards de galaxies qui seront entièrement mesurées. Et donc, à partir de là, évidemment, toute une cartographie, disons, physique de ces galaxies peut être faite, que ce soit la fonction luminosité, les relations couleur-luminosité, et évidemment aussi bon, les dépendances de l'environnement, les études morphologiques. Et à partir de là, effectivement, une étude détaillée des galaxies, ce qui, quelque part, est aussi nécessaire quand on veut faire l'histoire de formation des structures, parce que pour nous, l'évolution des galaxies est quelque part une sorte de biais, et quand même bien comprendre ce biais est une chose importante pour pouvoir pousser au plus nos outils de mesure cosmologique. Et là, la remarque sur ça, c'est aussi encore une remarque liée au big data, c'est qu'aujourd'hui, en général, dans ces programmes, disons, les chercheurs sont un peu laissés à eux-mêmes, on leur donne les images, et puis, des merdes d'Nzizich, quoi. Je veux dire, il faut regarder tous les pixels. Là, j'ai 3 milliards de pixels toutes les 15 secondes. Bon, c'est sympa. 5 millions d'images, c'est vachement sympa. Et donc, en fait, là, le rôle de la base de données, en particulier pour ces études systématiques de la galaxie, sera fondamental. C'est-à-dire que les chercheurs auront à leur disposition les outils pour faire des corrélations, donc sur ces 10 milliards de galaxies, que ce soit au niveau de l'environnement, des couleurs, auront des outils qui seront directement accessibles pour faire la science qui nous intéresse. Et donc ça, c'est fondamental, parce que là, il y a un changement d'échelle. C'est qu'on ne parle pas de 1000, 10 000, 100 000, on parle de 10 milliards de galaxies. Et donc là, il est clair que l'outil d'analyse va être fondamental pour pouvoir vraiment bénéficier de cette échelle. Et il faut voir qu'au niveau de LSST, l'investissement qui est fait dans le calcul, aujourd'hui, dès à présent, au niveau de la construction, est à peu près équivalent au coût de la caméra, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 150 millions de dollars, qui est investi aujourd'hui dans le développement de l'outil informatique pour pouvoir fournir des outils à même de traiter l'ensemble, l'ensemble de ces données. Juste un petit commentaire sur un élément clé et qui, disons, une faiblesse de ces systèmes photométriques. C'est super, on voit un très grand volume d'univers, mais la contrainte qu'on va avoir sur le redshift, donc évidemment qui est quand même l'information clé pour faire de la cosmologie, est relativement difficile à travers ces redshifts photométriques. Donc en comparant les diverses couleurs pour une même galaxie, on est à même d'inférer son redshift. Il faut voir que pour ça, les relevés systématiques où on peut calibrer cette relation, disons, entre les couleurs et le redshift, en général, sont très incomplets. En particulier, aujourd'hui, en fait, il y a un travail en cours pour essayer de couvrir, disons, les magnitudes d'Euclide, c'est-à-dire des magnitudes jusqu'à 23, 24, qui permettent donc de faire une correspondance. On voit un objet, ah, il a telle couleur, et je peux inférer son redshift et avec quelle, disons, chance j'ai de me tromper aussi que ce soit ce redshift-là. Et donc actuellement, il y a un travail pour essayer de compléter. Le problème pour LSST, qui va jusqu'à une magnitude 27,5, c'est que là, vous pouvez vous brosser, si je peux me permettre, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'objets avec cette magnitude-là pour mesurer leur redshift directement. Et donc ça, c'est un problème, puisque j'augmente de 2 magnitudes la profondeur à laquelle je peux aller, disons ma sensibilité, mais si je suis incapable de donner à ces objets un redshift, leur intérêt cosmologique sera bien moindre. Mais bon, la situation n'est pas aussi désespérée qu'il peut y paraître, et en particulier, on peut remarquer que les galaxies ont une fâcheuse tendance à vivre ensemble, pour la bonne raison qu'en fait, elles tracent toutes la même chose, à savoir la présence de matière noire. Et donc, les galaxies sont extrêmement grégaires. Sans forcément être dans des amas denses, elles sont relativement grégaires. Effectivement, elles évoluent sur des filaments, au moins. Et donc, à partir de là, effectivement, en profitant de cette relation de proximité, en utilisant évidemment le volume très important de données LSST, on peut faire des cross-corrélations entre des objets brillants dont on connaît le redshift de façon spectroscopique et ces objets très très faibles mais qui sont voisins et auxquels donc on sera à même de donner à ce moment-là un redshift et donc d'estimer et de calibrer leurs propriétés de redshift photométrique et donc à partir de là de faire des cartes complètes aussi pour ces objets-là. Et ça, c'est une étape qui est aujourd'hui relativement encore conceptuelle, mais qui sera une étape importante dans le cadre de LSST. Bon, mais pour conclure, je dirais effectivement, ça y est, ces projets sont là. En fait, il y a une chose que vous ne réalisez peut-être pas, mais la décennie qui s'annonce est une décennie merveilleuse au niveau observationnel. LSST, Euclide, SKA, mentionné DESY, WFIRST, ça, c'est l'ébullition. Il s'avère qu'en fait, oui, c'est une décennie heureuse, mais elle s'est préparée. Je veux dire, les discussions pour LSST, ça a démarré à la fin des années 90, sur les projets pilotes, les premières réflexions. Un design qui correspond à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui LSST, ça date de 2002. Le projet a vraiment, été un peu taillé dans le marbre, et pour cause, c'est à partir de 2008, le jour où on a commencé à la fabrication du miroir, qui a pris 7 ans. Donc, vous voyez les échelles de temps, le top départ réel de la construction, où on a pu fournir un calendrier réaliste de savoir quand la construction sera terminée, c'est 2014. Cette construction nous donnera accès à un instrument capable de prendre des données en 2021. Et à partir de 2022, on sera parti pour 10 ans de prise de données. Donc tout ça, ça va durer 35 ans. C'est long. C'est très long. Et il s'avère que la partie intéressante de ces 35 ans démarre demain. Et donc vous me voyez très, très satisfait, un peu épuisé par les années précédentes et très enthousiaste de ce qui nous attend. Merci.